SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 102 au programme aujourd'hui Italie et Ukraine avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Marianne.
Le premier cargo rempli de céréales a quitté le port d'Odessa, 26 000 tonnes de maïs direction le Liban via la Turquie. On va se poser la question de ce que ça représente, les enjeux, les dangers également, ce sera en deuxième partie d'émission. On commence d'abord avec la crise politique qui touche l'Italie. Nathanaël, lors du dernier numéro, on disait Boris Johnson n'est plus. Eh bien, on recommence pour cet épisode. Mario Draghi n'est plus Nathanaël. Le président du Conseil italien a démissionné. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?
Alors effectivement, Marianne, on perd encore en Europe après Boris Johnson, après Angela Merkel, un Européen à la fois convaincu, mais un Européen, je dirais aussi, de première importance, parce qu'il faut le rappeler pour nos auditeurs d'Europa Voice, Mario Draghi, c'était en plus d'être le Premier ministre de l'Italie, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, et donc il avait participé à remettre un petit peu l'Italie sur les rails de la prospérité économique en Europe. Donc effectivement, à la fois l'Italie perd son premier ministre et replonge dans une instabilité politique qu'elle a connue ces dernières années, mais en plus de ça, au niveau européen, il y a quand même une inquiétude qui se dessine parce que, encore une fois, les pro-européens, en tout cas ceux qui croient au projet européen, se comptent maintenant peut-être désormais à peine sur les doigts de deux mains au sein de l'Europe. Donc ça, c'est pour le contexte un peu général autour de Mario Draghi et de sa démission. Ce qui s'est passé, Marianne, c'est tout simplement que l'Italie était assise sur une coalition qui, déjà lorsqu'elle s'était formée, était assez bancale. Et puis là, on a eu en fait les partis de droite, d'extrême droite, de Silvio Berlusconi, de la Ligue, de parti de Matteo Salvini, qui ont refusé de participer à un vote de confiance demandé par Mario Draghi au Sénat, et c'est ce qui a enclenché ou déclenché plutôt la démission du Premier ministre, malgré, et ça c'est important de le signaler, malgré les tentatives répétées du président italien Sergio Mattarella de refuser la démission et de faire en sorte que Mario Draghi reste aux commandes. Mais malgré cela, on a une démission du Premier ministre et des élections anticipées à venir fin du mois de septembre.
Oui, parce que Mario Draghi avait été appelé à la rescousse pour former un nouveau gouvernement. Est-ce que du coup c'est un échec ?
Alors c'est pas un échec, Marianne, dans le sens où en fait il avait réussi quand même à garantir une stabilité d'une certaine façon avec un gouvernement. Ce que les Italiens veulent absolument éviter, j'allais dire, c'est à la fois ce qui se passe. Et pour moi, c'est une espèce de mélange entre ce qui peut se passer en Israël à la Knesset et en Belgique. C'est-à-dire à la fois d'avoir des coalitions qui sont tellement instable que c'est difficile de former une majorité. Ça, c'est ce qui se passe à la Knesset, où on a des partis qui ont tellement des objectifs opposés que on les réunit sur des points d'accord qui, en fait, sont extrêmement fragiles. Ça, c'est le premier écueil, en fait, que les Italiens voulaient éviter. Puis le deuxième écueil, surtout, c'est de se retrouver sans gouvernement parce que les partis au Parlement sont pas capables de s'accorder. Donc, d'une certaine façon, on peut pas dire que c'est un échec. D'autant plus, Marianne, et encore une fois, sans lire dans les boules de cristal, que ce qui va sûrement se passer en Italie, c'est qu'après ces élections, on va avoir le retour d'un Parlement beaucoup plus stable avec, il semblerait, même s'ils se qualifient eux-mêmes de centre-droit, une droite assez dure qui elle-même sera composée de plusieurs partis de droite qui arrivera au gouvernement. Donc en fait, on peut dire que ce n'est pas un échec parce que Mario Draghi a assuré la transition et le fait que les affaires courantes puissent continuer à être expédiées d'une manière correcte cette dernière année. Maintenant, c'est pas non plus une victoire totale parce qu'on risque de se retrouver en Italie comme on l'avait eu il y a quelques années avec un gouvernement avec une forte couleur politique de droite.
Là, on parle des conséquences pour l'Italie. Vous l'avez un petit peu abordé, il y a aussi les conséquences pour l'Europe. Est-ce qu'il faut craindre des turbulences au sein de l'Union européenne ?
La première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a eu quand même des fortes réactions au niveau des responsables européens à la suite de la démission de Mario Draghi. Je vais en citer quelques-unes. On a eu par exemple le commissaire au marché intérieur qu'on connaît bien, Thierry Breton, qui a dit que l'Europe a besoin de dirigeants comme Mario Draghi. Donc ça, c'est la version plutôt, j'allais dire, positive. Mais on a eu d'autres déclarations où véritablement on a pu voir une inquiétude de la part de dirigeants européens à la suite de la démission de Mario Draghi, pour plein de raisons. Hein. D'abord parce que l'Europe est en train de traverser une phase elle-même de turbulence, et donc on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'instabilité au niveau des pays. Je pense à deux événements qui concomitants, c'est à la fois la guerre en Ukraine et l'inflation, conséquence de cette guerre en Ukraine qui traverse l'Europe. Donc ça, c'est la première chose, c'est que l'instabilité en Italie arrive à un moment où il y a une instabilité au niveau européen. Ensuite, il faut pas l'oublier, hein, on parle d'un pays qui a une dette extrêmement importante, et donc il y a une peur au niveau des Européens de la réaction des marchés. On n'est pas dans la situation de la Grèce, mais il y a quand même toujours ça, il y a quand même ce sauvetage de la Grèce qui est en tête de tous les dirigeants européens, et donc c'est aussi cette crainte-là de voir un pays, qui plus est un pays historique de l'Union européenne, sombrer dans une crise financière pour laquelle les pays européens devront venir à la rescousse. Et je dis cela aussi parce que, rappelez-vous, on avait parlé des négociations qu'il y avait eu au sein des pays européens, notamment avec les pays frugaux, l'Autriche, les pays du Nord, à propos de la dette et des capacités d'emprunt, et de savoir en fait si on devait permettre à ces pays-là, plutôt du sud de l'Europe, d'emprunter avec une mutualisation de la dette. L'Italie compte beaucoup sur ça. Et donc c'est encore en plus un facteur d'instabilité et un facteur de dissension au sein de l'Europe entre des pays dits plutôt frugaux, qui ne sont pas vers une mutualisation des dettes, des subventions, versus des pays qui en ont besoin, comme c'est le cas pour l'Italie.
Et est-ce que ça peut avoir aussi des conséquences immédiates pour l'économie française ?
Alors bien sûr, ça peut avoir des conséquences, Marianne, pour l'économie française. D'abord parce que c'est un pays limitrophe, et donc forcément s'il y a une crise financière ou une crise qui a des impacts en Italie, ça peut avoir des conséquences sur le commerce entre les deux pays, mais aussi tout simplement en termes de pouvoir d'achat dont les Italiens vont pâtir. Mais ça peut surtout avoir des conséquences aussi parce que il y a des projets entre les deux pays, il y a des projets qui sont plus ou moins actés, acceptés, puis il y a aussi des projets avec des grandes dissensions. Je prends là, j'ai en tête les grands projets d'infrastructure, Marianne, autour du Lyon-Turin. Évidemment, vous mettez tout ça en suspens, et donc ça peut avoir des conséquences immédiates, ou en tout cas de moyen terme, entre l'Italie et la France. Et puis, juste pour se tenir aux déclarations officielles, Marianne, pour Emmanuel Macron, c'est véritablement la perte d'un allié au sein de l'Union européenne, parce que encore une fois, on avait un pro-européen convaincu, et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et si c'est un retour de partis de droite, voire d'extrême droite, comme avec la Ligue, comme avec même la droite de Berlusconi, le mouvement 5 étoiles, évidemment, les relations bilatérales entre les deux pays ne seront plus les mêmes. C'est encore trop tôt, Marianne, pour le dire, parce qu'encore une fois, il y a les élections anticipées le 25 septembre, mais en tout cas, c'est effectivement un facteur d'inquiétude. Et puis, sur ce point-là de la dissolution, Marianne, et des élections, je veux aussi souligner qu'il a été fait tout en Italie pour qu'il n'y ait pas cette dissolution. Ça a été véritablement...
Dissolution du Parlement.
Dissolution, pardon, du Parlement. Ça a été véritablement un objectif du président italien Sergio Mattarella, c'est d'éviter cette dissolution. Mais là, on était arrivé à une situation où c'était tout simplement impossible, et il fallait que le président dissolve et permette à une nouvelle majorité claire, quitte à avoir des coalitions, malheureusement des fois contre nature, de pouvoir émerger à la fin de l'année.
Le 25 septembre, pour les élections anticipées, ça laisse pas beaucoup de temps aux partis pour se préparer. On n'a pas d'idée de qui pourrait succéder à Mario Draghi, c'est encore impossible d'y voir clair.
Alors du côté de la gauche, Marianne, on a véritablement un mouvement en lambeaux. Enfin, c'est terrible, mais c'est presque un parallèle avec la gauche de gouvernement, si je peux plus l'appeler ainsi, en France. Donc on a une gauche pour l'instant qui n'est pas, j'allais dire, vue pour être un parti de gouvernement, en tout cas pour mener un gouvernement. Non, ce qui est en train de se dessiner, encore une fois, c'est plutôt des partis de droite, eux se font appeler de centre droit, mais c'est vraiment des partis plutôt de droite et d'extrême droite. La question, c'est de savoir si les différentes composantes de cette droite dure arriveront à s'entendre. D'abord sur des questions de leadership, comme dans toute alliance, y a toujours un des leaders qui doit faire des concessions. Mais après, même sur les questions, j'allais dire plus propres à l'Italie elle-même, sur par exemple les questions de la de la centralisation versus la décentralisation, les questions de d'unité du territoire, etc. C'est là où véritablement on va voir si les partis de droite arriveront à se mettre ensemble. Et puis il y a déjà quand même des petits indicateurs, ce qu'on appelle en communication de crise des signaux faibles. On a déjà eu quand même certains membres des partis de droite qui ont démissionné pour justement rejeter le fait que ces partis-là n'ont pas voté la confiance à Mario Draghi. Donc même du côté de l'extrême droite, qui est la plus propice d'arriver en tête et d'être aux manettes à fin septembre, il y a encore besoin de ces négociations, comme vous l'avez indiqué, dans un laps de temps extrêmement court, Marianne.
Élection anticipée le 25 septembre. Affaire à suivre, Nathanaël. On passe à la deuxième partie d'Europa Voice et on le disait en sommaire, les exportations de céréales reprennent en Ukraine. Le premier cargo chargé de maïs a quitté le port d'Odessa. 26 000 tonnes de céréales à son bord. Nathanaël, est-ce qu'on aurait tort de se réjouir trop vite?
C'est une très bonne question, Marianne. Je répondrai en deux temps. D'abord, il faut le souligner, effectivement, c'est un événement historique dans ces 150 jours de conflit, parce que après plus de 5 mois de guerre, on a 20 millions de tonnes de produits agricoles qui encore attendent dans les lieux de stockage répartis à travers le territoire ukrainien. Et donc, à la suite de l'accord signé à Istanbul, c'est une première que ces exportations agricoles ukrainiennes et russes, qui sont, rappelons-le, hein, bloquées depuis le début de la guerre, puissent être exportées et répondre à une demande croissante de pays qui en ont besoin, comme des pays du Moyen-Orient, le Liban en premier chef. Donc c'est d'abord, effectivement, un événement historique dans cette guerre maintenant de plus de 150 jours. Mais répondre à la question « est-ce qu'on a tort de se réjouir trop vite ?», effectivement, ça s'inscrit dans un contexte, on le voit, qui est quand même très compliqué. Il y a deux éléments, en fait, hein, c'est assez intéressant de pointer ça. C'est que, effectivement, encore une fois, c'est historique, mais ça intervient à un moment où la Russie est accusée de crimes de guerre délibérés à Olenivka. Dans cette prison avec ces prisonniers de guerre ukrainiens dont les bâtiments ont été bombardés par l'armée russe la semaine dernière, qui a fait réagir le monde entier sur des crimes commis par les Russes, jusqu'au chef de la diplomatie européen Joseph Borrell. Donc ça intervient dans un contexte, dans une escalade de violence très peu atteinte jusqu'à présent. Et puis ça intervient aussi dans un autre contexte et un autre événement que je trouve aussi très inquiétant, celui où le premier ministre ukrainien Zelensky appelle les habitants du Donetsk à évacuer afin d'échapper au bombardement russe, disant clairement que les Russes sont là pour appliquer la terreur, que l'hiver pointe le bout de son nez, qu'il faut absolument que les derniers habitants de la région, enfin les 200 000 civils encore présents dans la région évacuent. Donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas voir ces accords-là comme quelque chose qui mette fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais plutôt à la lumière de tractations internationales où des alliés objectifs de la Russie, et je pense notamment à la Turquie, ont besoin eux-mêmes, pour la stabilité de la région, d'avoir ces exportations russes. Donc c'est malheureusement, Marianne, je dirais, de la vraie réelle politique où ça n'annonce en rien la fin du conflit, mais plutôt parce que, encore une fois, objectivement, c'est dans l'intérêt des Russes et de leurs alliés au proche Moyen-Orient de permettre une certaine stabilité alimentaire.
Justement, je voulais qu'on se pose la question si c'était un espoir pour une éventuelle sortie du conflit. Vous venez d'y répondre. Vous avez rappelé que Volodymyr Zelensky avait appelé les habitants de la région du Donetsk à évacuer. On apprend également que le cap des 5000 civils tués a été franchi. On en est où sur le terrain de cette guerre en Ukraine, plus de 5 mois après le début de l'invasion?
On en est à un point extrêmement compliqué. C'est même très dur de voir malheureusement une issue, parce que on a l'impression que du côté russe, en tout cas, Vladimir Poutine n'est pas prêt à mettre fin à ce conflit. On peut le voir à travers les avancées sur le terrain, mais aussi à travers des initiatives plus global, il y a eu énormément de hacking de sites en Ukraine, en Russie, pour contrôler la propagande russe. Donc on voit véritablement les efforts de Vladimir Poutine ne sont pas en train de tarir. Et puis on a quand même des déclarations très dures. Moi, je veux juste reprendre ce qu'a tweeté l'ambassade russe au Royaume-Uni en parlant justement de ces de Olenivka et des combattants qui ont été arrêtés. La déclaration, c'est: les combattants d'Azov méritent d'être exécutés, mais pas par un peloton d'exécution par pendaison. Ce ne sont pas des vrais soldats, ils méritent une mort humiliante. Donc, quand vous avez quand même un organisme officiel qui est la voix de la Russie, hein, il faut le rappeler aussi pour nos auditeurs, un ambassadeur, c'est la voix du pays à l'étranger. C'est pas simplement, j'allais dire, un ministre lambda d'un gouvernement, un ambassadeur, c'est la voix du leader dans un pays, c'est la voix de Vladimir Poutine. Et donc là, c'est Vladimir Poutine derrière cette déclaration, c'est Vladimir Poutine. Donc vous voyez, en fait, c'est très très difficile. À la fois, effectivement, il y a un espoir parce qu'on a une situation qui est compliquée par rapport à des pays qui sont très dépendants des céréales ukrainiens, qui est le quatrième exportateur mondial, et c'est un signe d'espoir. Et vous avez raison aussi de le mentionner. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui-même saluer l'événement en espérant que la reprise d'exportation, et là je le cite, apportera la stabilité et l'aide indispensable à la sécurité alimentaire mondiale. Mais vous voyez, le focus, il est sur la sécurité alimentaire mondiale, et donc là, en l'occurrence, sur plutôt les pays du proche Moyen-Orient et le Liban en tête. Mais c'est pas un message d'espoir forcément, Marianne, sur une fin du conflit. Donc c'est très très dur. Et puis moi, il y avait un autre événement que je voyais, c'est que ben forcément il y a un essoufflement de la guerre, mais il y a aussi un essoufflement de la guerre dans les médias, et c'est que finalement on est rentré maintenant presque dans un phénomène d'usure où je crois que Emmanuel Macron s'est entretenu encore avec Zelensky pendant ses vacances au fort de Brégançon. Ces rencontres bilatérales, on les compte en dizaines de dizaines. Donc il faut imaginer la même chose avec les autres leaders. Donc ça veut dire au bout d'un moment, Marianne, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prochaine étape une fois qu'on a parlé des dizaines de fois aux leaders européens? Donc pour l'instant, malheureusement, c'est effectivement un facteur pour la stabilité et la sécurité alimentaire mondiale, et une bonne nouvelle, mais c'est malheureusement pas un signe pour moi d'espoir de fin de guerre. Et puis rappelons-le aussi, hein, pour l'instant, c'est aussi toutes les, même s'il y a encore les infrastructures sur place, la plupart des personnes qui font tourner ces bateaux marchands et ces réserves céréalières en Ukraine, c'est des locaux, c'est des gens sur place, c'est des Ukrainiens dont c'était pas le métier. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi du temps pour tout reconstruire, faire revenir les entreprises internationales, les sous-traitants, etc. Donc vous voyez, c'est plutôt pour moi encore de l'ordre de, même si c'est symbolique, mais de l'ordre de l'anecdotique.
Et donc, vous avez soulevé la question, c'est quoi la prochaine étape? Les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils allaient envoyer de nouvelles armes pour une valeur de 550 millions de dollars. Quid de l'Union européenne? Est-ce que l'Ukraine a toujours le soutien de l'Europe?
Alors, l'Ukraine avait le soutien, Marianne avait le soutien de l'Europe, effectivement, et c'était une des grandes quand même victoires, en tout cas, un des grands combats d'Emmanuel Macron. Maintenant, est-ce qu'avec les 6 mois de présidence tchèque, est-ce que ça va rester une focale pour l'Union européenne? C'est encore... pour l'instant, trop tôt pour le dire, mais la prochaine étape, elle est très simple, Marianne. C'est, est-ce qu'on continue à augmenter les sanctions financières et finalement les paquets de sanctions? Est-ce que ça a une vraie efficacité? Ou est-ce qu'on envoie des hommes au sol? Ou est-ce qu'on entre dans une solution qui est pour l'instant, qui n'est pas encore envisagée, qui est une solution plus militaire? Pour moi, elle est véritablement là la question. C'est à partir de quel moment on considère que les trains de sanctions, que la fourniture d'armes est suffisante, avec le risque, Marianne, aussi, avec cette fourniture d'armes, c'est qu'ils arrivent entre les mains des Russes à un certain moment, c'est déjà le cas, et donc avec les risques inhérents à cela. Pour moi, c'est véritablement ça, c'est quel est le déclencheur, quel est le trigger en mauvais français qui fait qu'on passe simplement d'une coopération en termes d'armes, en termes de sanctions, à une intervention militaire sur le terrain, que ce soit sous l'égide de telle ou telle organisation internationale, pas forcément d'un point de vue d'un pays, hein. Ça peut être l'OTAN, ça peut être l'ONU, l'Union européenne, on a déjà beaucoup parlé, il n'y a pas de force militaire, mais plutôt des coopérations étatiques. Mais voilà, pour moi, c'est ça la véritable question, c'est à partir de quand est-ce qu'on passe à l'option militaire et à l'intervention sur le terrain, d'autant plus que si le Donetsk est évacué et que les Russes annexent encore d'autres territoires, on aura de moins en moins ce que l'Ukraine constituait pour l'Europe avant en tout cas le début du conflit, c'est-à-dire une zone tampon. À partir de quand on va accepter que ce soit plus l'Ukraine, mais la Pologne, la Hongrie ou d'autres pays de l'Est de l'Europe, les zones tampons? C'est à partir de quand les dirigeants européens mettront le pied sur le frein et diront non, maintenant là ça suffit, le conflit est vraiment aux portes de l'Europe.
Là encore, on parle d'un conflit sur le terrain, d'une guerre sur le terrain, mais tout à l'heure, il y a quelques minutes, vous avez abordé un sujet très très important et très intéressant. Vous avez parlé de cyberattaque. C'est donc cette deuxième guerre un petit peu plus silencieuse, mais également dangereuse, la guerre du cyberespace.
Oui, effectivement, et c'est d'ailleurs, c'est pas nouveau, parce que c'est ce que les Russes avaient déjà fait en fait en Crimée et dans le Donbass pendant le conflit précédent en 2014, c'était véritablement raccorder certaines régions ukrainiennes au réseau internet russe. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils l'utilisent comme une force de propagande et ça leur permet, ben, avec cette propagande, d'asseoir leur souveraineté et d'une certaine façon leur légitimité dans ces zones annexées. Et il faut le dire, enfin, c'est, je veux dire, à partir de quel moment on considère que la Crimée est un territoire complètement russe. Enfin, je veux dire, dans la tête des gens, si en plus vous recevez les informations officielles russes, etc. Et donc ça, c'est véritablement une arme de guerre, malheureusement au même titre que, on le sait, hein, la terreur, les viols, etc. sont des armes de guerre. Et puis c'est pas non plus, encore une fois, c'est un événement de plus, hein, dans la longue guerre que les Russes mènent à l'Ukraine et à l'Europe, parce que directement après le début de la guerre, Marianne, en Ukraine, déjà l'accès aux réseaux sociaux avait été interdit par la Russie, qui avait fait elle-même pression sur les fournisseurs d'accès à Internet. Pourquoi ? Lors des printemps arabes, le départ de cette révolte était venu, rappelons-le, hein, de ces rassemblements en Égypte avec des appels via Twitter. Et donc c'est aussi quelque chose que les Russes, dès le début du conflit, ont voulu éviter. Donc malheureusement, Marianne, effectivement, il y a la guerre sur le terrain, mais il y a aussi la guerre dans ce cyberespace qui permet à Moscou d'asseoir encore un peu plus sa légitimité au sein de régions qu'elle annexe.
C'était Europa Voice numéro 102. Merci Nathanaël.
Merci Marianne.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.